Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
Avec Sarah Pitkowski, avec Julien Beneteau, David Douillet et Simon Dutin. Dans un instant, Captain Pitko va prendre le brassard. Tu préfères quoi, Captain Pitkowski, Captain Sarah? Tu préfères comment, Sarah?
Captain
Sarah.
Ah ouais, ça c'est le dessin animé. Ouais, absolument, il y avait un dessin animé.
Non, tu vas prendre le brassard parce que tu veux nous dire que Pauline Ferrand-Prévot est déjà la meilleure sportive française de tous les temps et tu vas nous le défendre.
Dans quelle discipline?
Hein?
Quand tu dis la meilleure sportive, mais c'est dans
multidiscipline, pluridisciplinaire.
Tout confondu?
Tout confondu.
Bah déjà on fait pas le débat.
Elle est la plus grande dans sa division. Oh, je sens qu'il va m'énerver.
C'est le moment de vous inscrire pour tenter de remporter soit 1000 euros, soit la totale de la rentrée. C'est le coffret RMC, un MacBook Air, une console Nintendo Switch 2, une montre connectée Garmin, un abonnement annuel à Ligue 1 Plus et un séjour Lagrange vacances d'une valeur de 1000 euros. Sinon il y a carrément la super totale à essayer de gagner avec 10 000 euros en plus. Envoyez coffre au 732-16, coffre au 732-16. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire. Mais d'abord, le tennis. L'US Open est-il en train de changer notre perception du tennis français actuel?
RMC, le ring des GG.
Pas de match pour Arthur Hinderknecht dans ce fameux classico qui se dispute sur le court numéro 17. Balle de match. Et c'est sur une double faute que Benjamin Bonzi est éliminé. Aïe, 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 c'est dur pour le Nîmois. Et c'est une vraie joie pour Arthur Hinderknecht à 30 ans. Il va disputer enfin un huitième de finale de Grand Chelem. Victoire donc en 4-7 pour le Breton. Et c'est l'abandon. Abandon de Ben Shelton. Voilà, c'est officiel. Puisque Manarino était parti au vestiaire. Il a attendu le retour du Français. Mais donc, il ne peut pas continuer. Manarino, deuxième Français en huitième de finale de cette US Open. C'est la fête au village et il jouera dans deux jours le Tchèque Jiří Lehečka.
Dans quel village d'ailleurs?
Bah, New York City, c'est un village.
Village de New York.
Il faut arrêter de le laisser tout seul, Eric, là.
Ouais, il faut lui amener un consultant.
Oui,
parce que avec Sarah.
On peut se relayer. Hein. Moi, je fais Wim US et tu fais l'Australie, le Roland.
Vous n'étiez pas d'accord sur le classico Rinderknecht?
Là, on n'est pas d'accord.
On aurait pu faire du coup un vrai débat. Quel est le plus grand classico, PSGOM ou Rinderknecht Bonzi?
Si c'est un classico, Alcaraz Sinner, il l'appelle comment?
Ah, le, je sais pas. L'ultimico.
L'ultimico.
On aura peut-être des Français à l'époque, de manière très sérieux. Deuxième semaine à l'US Open. Ils sont deux en huitième de finale aujourd'hui dans le tableau masculin. Arthur Hinderknecht, qui a donc gagné le classico. Il a 31 ans, opposé à Carlos Alcaraz. Ça pourrait débuter aux alentours de 19h30 ou un peu plus tard. Et Adrian Manarino, l'éternel, 37 ans, opposé au Tchèque Jiří Lehečka, tête de série numéro 20. Ça, ce sera à partir de 17h, normalement. Nos autres têtes d'affiche sont soit blessées côté français, Arthur Fils, ou Terrence Sattman, que l'on a vu demi-finaliste à Cincinnati, ou en méforme, Hugo Humbert éliminé au premier tour à Flushing Meadows. Star en dedans, perf ponctuel. La question, c'est faut-il se contenter du niveau actuel du tennis français? J'ai deux noms, David Douillet, Sarah Pitkowski. J'ai deux oui, Julien Beneteau, Simon Dutin. Sur le compte XDGG, vous avez voté. Pour l'instant, vous dites non à 73%. Donc vous partez normal. De loin.
Normal.
Encore une fois, il faut préciser la question. Faut-il se contenter des performances? C'est sur l'US Open?
Mais non, elle est toujours sur les mains, t'es fatigué, t'as trop
d'ouverture d'esprit quand même.
Ça y est, Julien, il voit qu'il a perdu.
Exactement, t'as raison, David.
Il essaie de remettre en question la question.
C'est ça, en fait.
J'ai mal compris la question.
Quand tu pars de trop loin, tu sais, attendez, les mots ont un sens. À un moment donné.
Effectivement.
Bon, bah, du coup, vous partez de loin. Je laisse Simon débuter, du coup, peut-être. Donc, faut-il se contenter du niveau actuel du tennis français? Simon, toi, tu dis oui. Pourquoi? Inspire Julien.
Moi, je retourne la question à celles et ceux qui ne s'en contentent pas. Qu'attendent-ils de nos tennisman et tenniswoman françaises et français? Une victoire en grand chelem? Je comprends pas bien, en fait, la question. Bah, oui. On s'attend à quoi? On veut quoi? On exige quoi?
On travaille pour
tennis
quoi?
Français, on bosse pour quoi? En effet. Alors, un petit coup d'œil au classement ATP ce matin. Arthur Fils 20e, Humbert 23, Petit Péricard 37, Muller 38. Moutet 40, Monfils 49, Bonzi 51. Alors, belle densité, vous
13,
me direz.
13 dans le top 100.
Dans le top 50, 13 dans le top 100, formidable.
Alors, les Tchèques, ils en ont... Meilleure nation représentée dans le top 100.
République Tchèque, ils en ont 3 dans le top 22. Les Italiens, ils en ont 3 dans le top 26. C'est un Italien, donc, en effet, numéro 1 mondial.
Donc, on ne peut pas se contenter que de ça.
Je pense qu'on est à notre place, qu'on manque de tête d'affiche. On n'a plus, plus fait demi chez les hommes en grand chelem depuis bientôt 10 ans. La dernière victoire en grand chelem chez les filles, c'est Marion, c'était il y a 13 ans.
Un seul quart de finale sur cette décennie. Hein, c'était mon fils en Australie.
Et je trouve ça m'a peut-être choqué, je trouve qu'on est pas si mal, pas aussi mal que ce qu'on aurait pu craindre. Il y a encore quelques temps. Il y a le jeune et en plus, moi je trouve que là il y a une éclaircie avec Boisson chez les filles et Atman chez les hommes, parce que au-delà des belles performances qu'ils ont réalisées, donc c'est la demi de Boisson à Roland et Atman c'était à Cincinnati Masters 1000. Il y a encore pas longtemps, c'est le profil de ces jeunes gens. Voilà, ça cogne fort, ça a pas peur, ça arrive sans connaître personne. Le grand public les connaît pas, ça a pas froid aux yeux. C'est des profils ça qui m'intéresse. Bon, Arthur Fils, le président de la Fédé et Arthur Fils nous ont confirmé que ce jeune homme avait des ambitions pour gagner un grand chelem. Bon, j'ai beau me projeter avec un petit peu d'optimisme, j'attends qu'on me coche le grand chelem qu'Arthur Fils va remporter dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent.
David
est un idéaliste. Il défend l'espoir en sport, la glorieuse incertitude du sport. Je le connais un petit peu, mon David. Je l'ai pratiqué.
Simon, droit de réponse.
Donc voilà, il y a pas de problème. Mais pour moi, on est à notre place. Et en fait, il faut arrêter. On se marre nous dans les médias dès qu'on parle de la deuxième semaine dans les grands chelems. Mais en fait, nous, notre royaume pour le tennis français, c'est la première semaine. Notre l'endroit où on prend notre pied avec le tennis français, c'est la première semaine.
Donc quand on a 13 dans le top 100, on ne peut pas se contenter
on doit se contenter d'une demi en grand chelem de temps en temps.
En fait, un classement est déjà un classement.
Et on doit se contenter d'un troisième tour quand un Français ou une Française tape une tête de série.
Mais là, ils en ont tapé des têtes de série. Bonzi en a tapé, Rinderknecht en a tapé, Manarino en a tapé.
On aura combien de Français en quart à Flushing?
Je ne sais pas, mais donc on ne peut pas se contenter de ça.
David,
moi ça me va.
Non mais pitié, à genoux, je vous implore d'arrêter de dire ça, c'est pas possible. On est en train de parler de compétition, on est en train de parler de haut niveau. Moi je défends le haut niveau, je défends la compétition, le sens même de la compétition. C'est-à-dire que ce que tu viens de dire, Simon, c'est même quelque part une injure contre le rêve de toutes ces personnes qu'on vient de citer. Leur rêve, c'est quoi? C'est d'être 3e mondial, 13e mondial, 20e mondial, 50e mondial. Mais non! Leur rêve, c'est d'être numéro un mondial.
David, on ne peut pas saluer la carrière d'un Tsonga ou d'un Monfils qui ont fait numéro 5 et numéro 6 mondial dans leur carrière. On dit que c'est des immenses joueurs français.
Tu as le droit d'essayer.
Mais que les joueurs français se hissent au niveau de performance et de charisme, j'ai envie de te dire, et de rapport au grand public de ce fait de Monfils, Gasquet et Tsonga, et on rediscute derrière. Pas de problème.
Mais j'attends ça. Il n'y en a aucun qui a été numéro un mondial. Qu'est-ce que tu racontes?
D'accord, mais justement, on nous dit, excuse-moi de son gars, il a été numéro 5 mondial.
Tu ne peux pas.
C'est une légende du tennis français. Forger, il a été 4 ou 5, c'est une légende du tennis français.
J'ai pas dit le contraire, légende du tennis français. Et ce qui est intéressant, tu sais, les légendes du tennis français, il y en aura dans toutes les générations, quasiment.
Oui, d'accord.
Par contre, des numéros 1 femmes, hommes, mondiaux, et on les compte sur quoi? Sur une main?
Il y a Amélie qui a été numéro 1 mondial, mais à part Amélie Mauresmo, quel Français ou Française a été numéro 1 ou
Celles et ceux qui ont gagné un tournoi du Grand Chelem, j'ai pas fait le compte, mais on dépasse pas les deux mains, ça c'est certain. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut pas se contenter de place d'honneur. C'est pas ça l'histoire. L'histoire, quand on aime le sport et quand on aime les sportifs, c'est de les porter, de les stimuler, de les encourager à aller au plus loin. Et le plus loin, c'est quoi? C'est la première place, ni plus ni moins. Donc tant que la première place n'est pas acquise, tu ne peux pas être content. Sinon, c'est, tu insultes la compétition et le sport du haut niveau. Clairement. Vraiment.
On a laissé
et tu les insultes dans leur préparation. Issus. C'est toutes ces personnes, tous ces gens, tous ces athlètes, tous ces personnages fabuleux, su, sang et eau, tous les jours, ont voué leur vie à ça. Si tu leur dis, bah, écoutez, vous êtes à votre place, mais tu les tues. Faut pas dire ça.
Je ne demande qu'à changer d'avis, David. Mais encore une fois, et je voulais pas t'énerver. Tu es sur l'espoir. Tu es sur. En effet, c'est des gens qui bossent tous les jours, qui s'entraînent dur tous les jours. Je n'ai pas remis ça en question. Mais la densité du tennis mondial, que ce soit chez les hommes ou les femmes, entre la première et la centième place, elle est inégalée dans l'histoire du tennis.
Tant mieux, la victoire en est plus belle, mais ça rend encore plus
difficile d'accomplir les choses. Que on n'a encore jamais accompli, donc bon.
On est sur le ring des GG. Faut-il se contenter?
Il faut que ce soit dur.
Du niveau actuel du tennis français. Il faut que ce soit dur, nous dit David. Il est 10h17, David. On a laissé 17 minutes à Julien Beneteau pour comprendre la question. Faut-il se contenter?
J'ai toujours pas compris.
Du tennis actuel. On a deux Français en huitième de finale. Quand tu regardes ce qui se passe depuis le début de la saison, tu dis quoi? Tu dis, on est à notre place. Il faut assumer ou il faut être plus exigeant, comme le dit David. Rêvons plus grand!
C'est un peu les deux. C'est-à-dire que chez les hommes, je pense que le travail d'ensemble et le résultat d'ensemble, il est bon. 13 Français dans les 100 premiers, c'est énorme. Aujourd'hui, factuellement et à l'instant T, on n'a pas de Français dans les 20 premiers, mais c'est un, enfin, entre guillemets, c'est un concours de circonstances dans une saison. C'est-à-dire que dans 3 mois ou 4 mois, on va peut-être en avoir. Donc,
il bouge toutes les semaines, le classement. Ça bouge, donc, c'est etc. pas.
Chez les hommes, on a à la fois de la densité et à la fois des profils, qui sont capables de performer au haut niveau. Au niveau, c'est-à-dire d'aller chercher. Alors David, il est très exigeant parce que il a été le plus grand dans son sport.
Mais oui.
Donc
ça n'a rien à voir. Vraiment.
Un peu quand même.
Si, parce que t'as.
C'est le principe. C'est la définition. Voilà. La définition du niveau. Et c'est une définition. Elle est claire et nette. La définition de la compétition et du haut niveau, c'est pas d'être 20e, c'est pas d'être 10e, c'est pas d'être 5e, oui. C'est même pas d'être numéro 3. C'est d'essayer d'être le numéro 1. Quand t'as fait toute ta carrière et que t'as essayé d'être le numéro 1, t'as fait une grande carrière. Si t'as pas essayé, si tu t'es contenté, comme on le décrit dans cette question, eh ben, fallait pas faire du haut niveau. Fallait faire autre chose. Fallait être entraîneur. Fallait taper la balle avec les copains le week-end. Mais t'es pas fait pour la compétition. C'est juste un état d'esprit. Et si t'as pas cet état d'esprit-là, ben, circuler, y a rien à voir. C'est tout. Sinon, c'est une insulte à la compétition. Sinon, t'es un figurant. Tu fais partie de la salade autour de l'assiette, mais tu fais pas partie du plat.
Dieu sait si David aime bien l'assiette.
Ceux qui ont du goût, c'est ceux qui se battent jusqu'au bout.
Moi, j'aime bien les petites tomates cerises, par exemple.
Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que on peut avoir cet état d'esprit-là et parfois faire que quart de finale entre guillemets en grand chelem. Et est-ce que pour autant c'est une mauvaise performance ou si on dit est-ce qu'on peut se contenter des performances? Je pense que si dans une saison on a un ou deux quarts de finale de Grand Chelem chez les hommes, vu la concurrence qu'il y a chez les hommes aujourd'hui sur le tennis mondial, ce serait une bonne saison pour le tennis français.
Si tu te contentes de fait pour le haut niveau.
Non, voilà. Je dis pas qu'on se contente de ça. Je dis que c'est que factuellement ça peut rester une bonne saison, vu le contexte. Donc voilà, après chez les filles, oui, là on peut pas se contenter de ce qui se passe. On a que Boisson dans le top 50, et encore là c'est parce qu'elle est 46e. Derrière, on a trois filles aux alentours de la 90e place. Donc là, on sait qu'on a un vrai manque à la fois de relève de vivier et de présence sur le haut niveau. Donc là, on peut pas se contenter de ces résultats-là.
Sarah.
Alors moi, pourquoi je dis qu'on ne peut pas se contenter?
T'es aussi exigeante que David?
Alors, j'aimerais, mais l'histoire nous montre que dans le tennis, on ne peut pas être aussi exigeant. En tout cas, on peut courir derrière la première place, mais il y en a qu'un qui aura la première place. Tout le monde n'a pas les qualités d'être numéro un mondial. Donc, c'est vrai que c'est la marche est très haute. Quand je dis qu'on ne peut pas se contenter de ça, c'est-à-dire qu'on est un. Je prends de la hauteur. On est un grand pays de tennis, historiquement.
C'est rare qu'il prenne la hauteur, c'est rare.
Alors, je vais monter sur la chaise. C'est un peu facile. Je vais prendre la hauteur avec mon esprit.
Si vous respectez votre capitaine.
Je vais revenir sur l'histoire du tennis en France. Nous faisons partie de la création de ce sport en France. Il faut se rappeler des mousquetaires. Il faut se rappeler que, parce que les mousquetaires devaient défendre un trick, nous avons construit un stade qui s'appelle toujours le stade Roland-Garros. Nous sommes une fédération qui possédons un des 4 tournois du Grand Chelem, donc un réservoir financier naturel colossal. Aujourd'hui, la fédération se défend d'avoir plus de 1200 licenciés parce qu'on met du beach tennis, du paddle. 1 200 000, pardon. Mais parce qu'on met du paddle, du beach tennis, du pickleball et tout ce qui va avec. Et qu'on a des structures, on est structuré pour pouvoir amener des joueurs en deuxième semaine. Après, le dernier carré, c'est le dernier carré. Mais quand je dis qu'on ne peut pas se contenter, c'est parce qu'on a tous les ingrédients pour amener des joueurs et des joueuses en deuxième de semaine de Grand Chelem. Et on l'a fait historiquement. Alors, il y a eu des moments où effectivement, on a eu des générations exceptionnelles avec nos 4 mousquetaires. Julien et faisait partie de cette génération. On a eu une génération où de ma génération, on était plus de 20 filles dans les 100 premières mondiales. Donc en fait, ça dépend. Si ce n'est qu'aujourd'hui, encore une fois, on vit dans une société où c'est pas la fédération de donner le biberon et la tétine en disant bon, et c'est grâce à nous vous allez être en deuxième semaine. Non, ils sont responsables. On leur donne tous les moyens. Donc je pense que oui, on doit être exigeant et on ne peut pas se contenter juste d'une fin de semaine de Grand Chelem pour les hommes comme pour les femmes.
Faut-il se contenter du niveau actuel du tennis français ? C'est notre débat sur le ring des GG. Florent a composé le 32-16. Salut Florent.
Salut les GG.
Salut Florent.
Bon.
Salut
Florent.
Débat très animé. Hein.
Wow. Débat très animé. Ah oui, mais attends, c'est la rentrée demain. Il faut que tout le monde arrive à fond. Hein, tu vois.
Je vois un David très, très énervé aussi. Ouais,
David, il m'a dit hier au téléphone, parfois je commence un peu diesel. Là, il est commencé direct. Il a pris la limite faux départ. Quoi.
Non, mais
David, Simon, il attend qu'on Simon gagne a le talent. Chaîne, donc, c'est normal qu'il soit énervé.
Simon, il a un vrai talent. À chaque fois, il m'allume. J'adore.
C'est ça. Bon, Florent, tu te positionnes comment, toi? Il faut être plus exigeant ou il faut se contenter du niveau actuel du tennis français?
Franchement, après ce qu'on a vécu, on va dire, ce qu'on a vécu avec Tsonga, d'où même Julien, Tsonga, mon fils, etc., etc., on peut que se contenter parce qu'on n'a vraiment personne. On est vraiment...
Ah non.
Voilà. Oh, à part Bonzi qui a battu 2 fois Medvedev. Mais est-ce que Medvedev est un genre de tennis maintenant? Ouais. Voilà, à part gueuler.
Non,
voilà,
mais attendez, ouais. On n'a pas personne. Il y a Arthur Fils, là, il est blessé.
Il est blessé depuis 4 mois.
Il est très, très fort.
Le Piatman, je le répète.
Hugo Humbert, c'est un formidable joueur de Dindor.
Pour moi, il y a Pecci
qui va revenir aussi.
Mais est-ce qu'il y a un leader assumé? Moi, c'est là où je rejoins peut-être Florent. Est-ce qu'il y a un leader déjà? Alors, Arthur Fils,
c'est un leader.
Il n'y
a plus personne. C'est bien ce que je dis pour l'instant. Là, on est avec des catégories seconde zone pour l'instant. Moi, je ne peux pas dire ça. Moi, je suis un triple zone. Donc voilà. Voilà. Mais ils sont au haut niveau, il n'y a pas de problème. Mais moi, après avoir vécu ce que Julien a fait, ce que Joe a fait, ce que Gaël a fait, me lever le matin, c'est me lever le soir à regarder l'US Open, c'était un plaisir. Maintenant, c'est devenu une galère. Je ne vais pas vous mentir. Voilà. Maintenant, quand on voit que Medvedev a perdu son bonzi, mais quand Medvedev pète les plombs à chaque match qu'il fait, voilà, c'est voilà. Et encore Medvedev, même je pourrais mettre dans les Français, parce que vu qu'il parle bien français. Mais
c'est
vrai.
C'est ça l'argument, ça. Bon, Florent, t'es pas tout à fait effectivement. Bah, tu veux voir mieux, quoi.
Pour l'instant, on peut se contenter que de ça. Pour l'instant, parce que comme on n'a pas de grand joueur à l'heure actuelle, à part Arthur qui est blessé et Mpetchi Piekar pour l'instant qui avance doucement, bah voilà, pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Non, on peut se contenter que de ça. Je sais que ça énerve David de dire qu'on peut se contenter de ça, mais pour l'instant, c'est la mentalité française et ouais, c'est comme ça.
Ah,
quoi.
La mentalité française, effectivement, sur le côté, quoi. Le côté un peu poulie d'or, hein. C'est ça. Je sais que ça, David, ça le rend fou. Faut pas qu'on le lance tout de suite dessus. Merci, Florent, d'avoir appelé au 32-16. Tiens, j'ai les messages sur le numéro WhatsApp. Également, je rappelle, vous pouvez nous appeler au 06 12 424 424. Philippe qui nous dit non, on peut pas se contenter des résultats actuels, mais voilà, il faut quand même les laisser travailler. Voilà, donc on est quand même un petit peu partagé. On a quand même des auditeurs qui, pour l'instant, ne s'identifient pas peut-être à un garçon, comme nous le disait il y a quelques instants Florent au 32-16, à un leader pour essayer de rêver plus grand. Bon, vous avez été très animé sur ce ring, les amis. Alors, est-ce qu'on a le résultat sur le compte X des Grandes Gueules du Sport? 74%.
On a gagné 1%.
Non, vous avez gagné 1%, le non.
Sarah, on a gagné.
Et David, on a gagné.
Vous avez gagné ce ring des GG. Voilà, bon.
Eh ben, écoutez, ça c'est fait.
On va voir, il faut attendre plus, il faut attendre plus, il faut être exigeant, bien sûr. Comme les Américains, tout de suite ils arrivent, ils veulent tous être champions olympiques. Pourquoi non, pas nous
le plus grand service qu'on peut accorder à toutes ces joueuses et joueurs, c'est de se dire qu'on n'est pas content. Voilà, et qu'il faut y aller. Si on leur dit on est content, bah pff, voilà, on a qu'à continuer, et puis rien ne change.
Rinderknecht, Alcaraz, 8e de finale de l'US Open, aux alentours de 19h30. Ah, Manarino,
il peut le faire, hein, Lechka,
à 17h. Et puis je vous rappelle que John McEnroe, légende du jeu, invité à 19h30 dans Bartoli Time tout à l'heure. Évidemment,
est-ce qu'il se contentait d'un quart de finale, John McEnroe?
Non, je crois pas. John McEnroe,
il est où le McEnroe français, David? Dis-moi qui a le quart.
Mais il est peut-être né à l'heure où on parle, tu vois. Il faut avoir de l'espoir. Il est peut-être là et peut-être qu'il va éclore. Ouais, et voilà. Il faut le stimuler parce que si jamais il prend exemple sur les autres, eh ben, on est mort. Voilà, on va se contenter encore.
C'est le David que j'aime. Voilà, le David
Doublé. Voilà. T'as encore tombé dans le panneau de Simon, David.
Chaque fois, ça marche.
Il a trouvé le bouton encore. Allez, dans quelques instant, Captain Pitco, prends le brassard. Tu vas nous dire que Pauline Ferrand-Prévot est déjà la plus grande sportive française de tous les temps. On vous attend au 32-16.
Non, t'as dit de l'histoire.
Bah, du coup, de l'histoire de tous les temps, c'est quoi
la
différence?
Attention aux mots.
Qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes tous malades.
On n'a pas un sondage là-dessus, non? On n'a pas des pourcentages?
Bah, on va vous poser la question.
Il y a Julien qui est en train de contaminer Sarah, là.
Allez, on vous attend au 32-16 sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Avec Simon Dutin, avec Sarah Pitkowski, avec Julien Benetneau, avec David Douillet, avec qui dans un instant on va remonter le temps. Et oui, les GG remontent le temps. Il y a pratiquement 25 ans jour pour jour. David, qui a toujours été exigeant et ambitieux dans sa carrière, lui. Il allait chercher une deuxième médaille d'or à Sydney.
Et il pense que tous les sportifs français peuvent accomplir ce qu'il a accompli, mais bon.
Non, alors après, c'est
absolument.
Non,
absolument.
Et voilà, il faut le croire, quoi.
Ne tombe pas dans le panneau.
Je peux dire que c'était chaud. C'était très chaud.
Mais, oui, bien sûr. Mais d'abord, Captain Pitkowski prend le brassard pour la première fois des grandes gueules. Alors, je précise, quand vous êtes capitaine, quand vous avez le brassard dans les grandes gueules du sport, ça veut dire que vous allez défendre un parti pris et il peut être très tranché et on voit après comment vous réagissez. Sarah, tu voulais nous parler aujourd'hui de Pauline Ferrand-Prévot. Alors, je vais d'abord contextualiser. Un mois après sa victoire sur le Tour, elle a retrouvé le public français à Ploué hier. Elle n'a pas gagné cette fois-ci, elle a terminé 20e. Mais la Française, elle a montré qu'elle était en forme avant les Mondiaux dans un mois au Rwanda. Avant d'entendre Maria Azé, notre spécialiste vélo est en direct avec nous depuis Ploué, où elle a suivi la course de Pauline. Salut Maria.
Salut Georges, salut tout le monde.
Salut Maria.
Maria, ce que tu as constaté hier, c'est qu'il y a une véritable Pauline mania, c'est ça?
Ouais, tout à fait. Il y a une Pauline mania même depuis une semaine en Bretagne, puisqu'elle a pris un bain breton d'abord à Javenay la semaine dernière, une petite ville de 2000 habitants pour le Critérium de Bretagne où elle s'est imposée, et à Ploué hier pour le Grand Prix où elle termine 20e, tu le disais Georges, sous le déluge. Alors sur le bord des routes, le public évidemment n'a Dieu que pour elle.
Exceptionnel de voir Pauline Ferrand-Prévot ici. Elle vient tout juste de gagner le Tour de France. Elle a répondu à ses engagements et franchement, on peut que la remercier.
Nous, on est venu un peu pour ça, pour la voir, la féliciter du Tour de France qu'elle a fait.
C'est une grande championne. Elle a tout le temps le sourire. C'est une super ambassadrice du vélo.
De tout sport confondu, par cette Marie-Josée Pérec, je vois pas plus grand.
Alors depuis qu'elle a remporté le Tour de France, Pauline Ferrand-Prévot a pris une nouvelle dimension, plus importante encore qu'après sa victoire aux Jeux Olympiques l'année dernière. Et ça influe forcément sur les courses. À Javenay, le public était plus nombreux pour la course femme que pour la course des hommes qui avait lieu juste après. Pour Michael Kersin, l'organisateur de la course, à accueillir la Rémoise est un gros coup de projecteur.
On voulait qu'elle soit là. Pour moi, c'est une championne incroyable. En plus, qu'elle gagne le Tour de France. L'apothéose, on a Pauline Ferrand-Prévot qui est chez nous. C'est fou.
Même scénario hier à Plouay où il était très difficile de circuler autour du bus de la Visma Lease Bike malgré la pluie. Pour la Française, ces deux courses lui permettent de se tester mais aussi de venir à la rencontre de son public.
Je suis vraiment contente d'être là. Remercier le public breton qui nous a accueillis magnifiquement durant ces deux premières étapes du Tour de France. C'est là où tout a commencé. J'ai l'impression aussi de clôturer un peu cette page Tour de France.
Alors la rencontre aura été de courte durée hier à cause de la pluie. La Française est vite repartie en voiture devant les yeux du public, forcément très déçue. Prochaine échéance pour Pauline Ferrand-Prévot, le Tour de l'Ardèche, juste avant les Mondiaux au Rwanda, où elle prendra finalement le départ pour poursuivre cette saison sur route, déjà exceptionnelle.
Et oui, Pauline a encore de grands objectifs. Merci Maria, tu restes avec nous pour surveiller, hein, si on ne dit pas n'importe quoi. Tu es notre garante de l'information. Pauline, Captain Pitkowski, je me tourne vers vous. Vous voulez nous défendre. Pauline Ferrand-Prévot, la plus grande sportive française de tous les temps.
Oui, oui, moi je pense qu'aujourd'hui, Pauline Ferrand-Prévot est rentrée dans l'histoire du sport français pour plusieurs raisons. Déjà parce que son palmarès depuis plus de 10 ans est absolument unique au monde. Elle est la première et l'unique cycliste, tous sexes confondus, à avoir été championne du monde dans 3 disciplines différentes, la route, le cyclo-cross et le VTT. Elle affiche 15 titres de championne du monde dans ces différentes disciplines. Et ce premier titre, il date pas d'hier. C'est-à-dire qu'il y a aussi la longévité. Le premier titre, c'est en 2014. Elle est la première française à être championne du monde sur route. Et ça, c'était depuis Jeannie Longo en 95. Mm-hmm. Ben oui, pourquoi tu rigoles, Julien?
Justement, on va en parler.
Oui, on va en parler. En 2023, elle réalise un exploit historique. 5 maillots arc-en-ciel en une seule saison. Jamais personne n'a fait ça. Ah oui. Et donc, pourquoi je vous avance ça? En plus de ce titre de championne olympique acquis en juillet l'année dernière sur la colline d'Elancourt, je vous le rappelle, avec 3 minutes d'avance devant la médaillée d'argent en battle, elle a même été, et ça c'est un signe qu'elle rentre véritablement dans le panthéon du sport français, elle porte le drapeau lors de la cérémonie clôture aux côtés d'un certain Antoine Dupont. C'est un signe aussi. Mais là, on s'arrête pas là. Fin 2024, elle te dit, bon allez, je mets tout sur la route. Elle signe chez Visma Lease Bike et elle veut revenir sur la route. 12 avril 2025, Pauline Ferrand-Prévot dispute pour la première fois le Paris-Roubaix. Elle le remporte. Et la dernière fois qu'un Français a gagné le Paris-Roubaix, il faut remonter loin. C'est 92, c'est Frédéric Guédon.
Ah oui, ça.
On recommence. Le Tour de France, elle vient pour voir. Départ 26 juillet à Vannes. Déjà sur la première étape, elle se signale en attaquant dans le final. Le 2 août, elle remporte l'étape Rennes après avoir distancé toutes ses adversaires à 8 km du sommet du col de la Madeleine, en haut duquel elle s'impose. Et elle remporte le Tour de France. J'ai pas besoin de vous dire qui est le dernier vainqueur du Tour de France, hommes et femmes confondus. On n'arrête pas de nous le répéter depuis des décennies, un certain Bernard Hinault. Mais pareil, même si le Tour de France féminin représentait pas grand-chose à l'époque, la dernière, c'était Jeannie Longo en 89. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que c'est une sportive pluridisciplinaire hors norme. Sur la route, sur le cyclo-cross, sur le VTT. Alors, je vois pas comment on ne peut pas la comparer, même la mettre au même titre, voire même un peu plus haut que d'autres sportifs qui, elles, ne faisaient qu'une seule discipline. Marie-Josée Pérec en athlétisme, Amélie Mauresmo en tennis, Clarisse Abguénénou en judo. Voilà. Il y a un moment, elle a dominé 3 univers sportifs différents. Donc, je pense qu'on peut aujourd'hui dire qu'elle est la plus grande parce que, et voilà, ces 3 disciplines demandent aussi des qualités qui sont différentes. Je pense qu'elle a un vrai statut de pionnière.
Captain Pitkowski défend dans les grandes gueules du sport que Pauline Ferrand-Prévot est la plus grande sportive française de tous les temps. On regarde ce que l'on voit aujourd'hui, de la Pauline Mania aussi que l'on a entendu il y a quelques instants. Ça fait beaucoup réagir sur le WhatsApp, 06 12 424 424. Sylvain notamment qui nous dit mais Sarah, que fais-tu de Laure Manoudou, Marie-José Pérec, Colette Besson?
Mais je ne les oublie pas.
Julien, tu réagissais déjà pendant le briefing, le speech.
Qu'elle soit rentrée dans l'histoire du sport français, sans aucun doute, c'est monstrueux, c'est la plus grande française de tous les temps, sportive française. Non, dominée dans plusieurs disciplines, ok. Est-ce qu'il y a plus de différence entre le VTT et le ski sur route que le 200 mètres et le 400 mètres en athlétisme, où c'est pas les mêmes qualités qui sont demandées?
Comme le vélo, c'est pas les mêmes.
Voilà, bien sûr. Oui. Mais est-ce que c'est... Je pense que ce qu'a fait Pérec, 3 médailles d'or dans le sport roi des Jeux Olympiques, avec la concurrence, c'est pour l'instant en France inégalé. Je pense que dans le cyclisme féminin, ce qu'a fait Jeannie Longo, pour l'instant, c'est plus fort que ce que fait Pauline Ferrand-Prévot. Dans un sport individuel, Amélie Mauresmo, deux grands chelems, numéro 1 mondial, victoire de Fed Cup, médaille d'argent aux Jeux Olympiques, c'est pas mal aussi. Donc, il y a une Ferrand-Prévot mania, il y a un, comment dire, elle commence à créer une image, on va dire.
C'est pas encore assez pour
un nom, pas de souci. Mais son nom, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le plus grand palmarès pour moi du sport français féminin, et elle n'a pas encore le plus grand nom. Vous demandez
Perec, la longévité,
Perec, Manodou.
Mais la longévité, plus de 10 ans d'être
d'accord, au niveau. Jeannie Longo, 1500 victoires voilà. Entre 1985 et 2020,
oui, mais,
je crois qu'elle
court
encore.
La concurrence à cette époque-là n'est pas la même aujourd'hui. Et quand je dis qu'elle est pionnière, c'est que grâce à elle, le cyclisme féminin va se professionnaliser. C'est-à-dire qu'elle va inspirer.
Oui, mais d'accord, mais donc là tu me sers l'argument du côté pionnière, tu vois, tu vas. Ah bah d'accord, mais si on va par là, alors Mauresmo, je barre, Marie-Jo, je barre, Jeannie Longo, je barre, c'est donné. Je relance d'une Suzanne Lenglen, 6 fois Wimbledon, 2 Roland-Garros, on peut parler de pionnière, ça passe. Alors qu'est-ce que j'ai à vous donner? Marielle Gotchel, tiens, on parlait de pluridisciplinaire, en Marielle Gotchel, en ski, voilà, 7 fois championne du monde, 2 fois championne olympique.
Mais il y en a 15,
est-ce qu'il y a
là.
Plus de différence entre le ski cyclo-cross et le cyclisme sur route ou entre le slalom spécial et la descente, surtout à l'époque sur des planches en bois comme était le matériel.
Ouais, mais le ski n'est peut-être pas
Marielle
populaire Gaudel,
ça passe.
Que le vélo.
Alors, Marie-Amélie Le Fur, voilà, 9 médailles olympiques dans les Jeux paralympiques. Elle aussi, c'est une pionnière à l'heure où le sport paralympique est mis en avant. Donc, Laura Flessel, 5 médailles olympiques sur 3 Olympiades différentes. Donc, je veux dire, encore une fois, tu nous as un peu noyé le poisson, Sarah, parce que nous faire dire qu'elle n'est pas rentrée dans l'histoire du sport français, ce serait nous prêter des intentions.
Alors, je crois que David,
elle est évidemment dans le top 10, top 20
Douillet
des sportives françaises, mais la plus grande sportive française de l'histoire, c'est faire injure un petit peu à toutes les championnes qu'on a évoquées.
David, tu es d'accord avec Captain Pitco? Tu veux défendre Pauline Ferrand-Prévot comme meilleure sportive française de tous les temps?
Actuelle. Oui. Bah moi, j'étais atteint par le virus.
Je me sens plus
Julien.
Il faut qu'elle s'entraîne, il faut qu'elle ait de l'ambition. Et après,
voilà,
elle arrivera
sur les temps. Voilà, c'est ça, vous avez tout compris. Non, mais ce qui me dérange, il y a un truc qui me dérange dans ces classements. Non, mais arrêtez de rire, franchement. Non, mais il y a un truc qui me dérange, c'est que on compare des choux et des carottes, voilà. Certains adorent les choux, d'autres les carottes, et certains préfèrent les navets. mais globalement, on peut pas comparer des athlètes qui ne peuvent être que dans une seule discipline, parce que t'en as qui n'ont pas le choix. Si je prends l'exemple de Clarisse en judo, elle a pas le choix, elle peut pas combattre dans une catégorie inférieure, elle pourrait combattre dans une catégorie supérieure, mais notre sport est ainsi fait que l'optimisation du physique, elle se fait sur une seule catégorie. Donc elle a pas la possibilité d'aller glaner dans un autre domaine qui est similaire. Donc ça déjà, ça clôt un peu le débat, parce que tu peux pas comparer des athlètes qui ont cette possibilité, tant mieux pour elles, d'aller faire des disciplines dans des espèces de filiales autour de la discipline principale, et des athlètes qui ne peuvent pas le faire. Moi, pour moi, les meilleurs classements, et je vais pas faire une réponse de Normand que je suis, mais je vais la faire quand même, c'est que la place de numéro 1, il y a un énorme podium sur laquelle, évidemment, Pauline est montée. Elle fait partie des premières grandes françaises, des grandes françaises qui ont marqué l'histoire du sport, mais elle est accompagnée de toutes celles dont on a parlé, de Laure, de Clarisse, de Félicia Bélanger, de Laura Flessel, de Marie-Jo, bien évidemment, etc., etc., et même de Suzanne Lenglen. Et elle est sur cette marche-là. Elle est dans ce panthéon. C'est un panthéon, en fait. Oui, mais c'est un panthéon dans lequel ces athlètes sont inspirantes pour des générations qui arrivent, sont remarquables pour représenter leur pays, sont stratosphériques en termes de résultats, de performances dans leur discipline. Et elles sont toutes de fabuleuses athlètes. J'y ajouterai un petit bémol. Faut pas non plus tomber dans le piège des sports qui sont un peu plus médiatisés que d'autres. Voilà, on a d'illustres inconnus, enfin des inconnus qui ne le sont pas ou peu par les spécialistes, qui font des choses remarquables, aussi remarquables que les autres. Par contre, elles sont moins médiatisées, donc on en parle beaucoup moins, donc on a l'impression qu'elles sont moins grandes. Alors que sportivement, elles sont tout aussi grandes, voire quelquefois plus grandes. Voilà.
Non, mais c'est vrai qu'il y a l'impact, effectivement, que tu as selon le sport dans lequel tu es, l'impact médiatique.
L'impact médiatique est indéniable. Et pour venir sur ce que disait David sur la pluridisciplinarité, et donc le fait de pouvoir gagner plusieurs médailles, un nageur, Phelps, plus personne va l'égaler. Alors que par exemple, un Mondo Duplantis, s'il est encore champion olympique à Los Angeles, voilà, et qu'il continue, lui, il peut gagner qu'une médaille. Il va marquer l'histoire, ça va être c'est un monstre. Ou à ton époque, David, il n'y avait pas la compétition par équipe, tu avais ta catégorie dans ton poids. Et en fait, c'est sur le nombre d'Olympiades aussi, sur le nombre de Jeux Olympiques, là où tu es, ce qu'a fait Anthony Estanguet, par exemple, d'être triple champion olympique sur 4 Jeux Olympiques différents. Il y a une Olympiade où il n'a pas été champion olympique. Bah, c'est ta discipline qui te demande ça. C'est monstrueux, c'est fantastique. Donc, c'est très difficile de pouvoir comparer quand il y a plusieurs disciplines au sein d'un même sport.
Bon, j'ai l'impression que Captain Bennett peut-être a pris le brassard à Captain Pitcock. Non, il a été bon.
Puis, sachant qu'il appartient à Captain Cessieux, je suis très humble là-dessus.
Maria, tu nous disais, Maria Azé, la suite pour Pauline Ferrand-Prévot, c'est quoi? Il y a les mondiaux, c'est ça?
Ouais, il y a le Tour de l'Ardèche d'abord, du 9 au 14 septembre, en préparation des mondiaux. Et après, il y aura les championnats d'Europe. Donc, elle peut faire le quadruplé cette année, Paris-Roubaix, Tour de France, championnat du monde et championnat d'Europe juste après. Ce serait une année exceptionnelle.
Formidable. Bah, peut-être qu'à la fin de l'année, Julien dira, mais je me suis peut-être trompé.
Non, ça gagne le Tour de l'Ardèche, ça va définitivement la mettre au sommet du podium.
Juste pour répondre à Julien, quand il dit le palmarès de Phelps sera quasiment jamais inégalé, mais celui de Pauline Ferrand-Prévot, il sera sans doute inégalable pendant longtemps aussi.
T'as raison,
voilà.
Effectivement, ça a beaucoup fait réagir sur notre WhatsApp également, hein, 06 12 424 424. Les époques sont différentes, la médiatisation aussi, nous dit Eric, sur notre WhatsApp. Allez, dans quelques instants, on remonte le temps. On va retrouver David Douillet, mais pas le David Douillet 2025, David Douillet Sydney 2000 qui vous a fait rêver. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
Avec Julien Beneteau, avec Sarah Pitkowski, David Douillet, Simon Dutin, dans un instant, on ouvre le vestiaire des GG, on va vous poser cette question, comment rebondir après une grosse performance? C'est la question de la gestion de la victoire, en fait, hein, parce que le grand public peut-être ne comprend pas, Loïs Boisson, demi-finale de Roland-Garros, pourquoi derrière on la retrouve pas tout en haut en grand chelem? On va vous expliquer, en comprenant un peu plus avec vos expériences. Mais d'abord, les GG remontent le temps, il y a presque 25 ans jour pour jour, de l'autre côté de la planète, à Sydney, un géant le devenait encore plus.
Pas trop de Douillet qui tient. Allez, mon grand, allez, qui est. Attention à ça, oui. C'est un génie. Bon, je ne veux pas m'énerver, regardez le génie du judo mondial. Allez, qui est. C'est génial. Putain, il a gagné. C'est un monstre. C'est un dieu vivant.
Beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, beaucoup de travail et pas une accumulation de titres ou de médailles, c'était pas ça le plus important. Le plus important, c'était d'aller au bout de sa passion et puis d'aller au bout des choses, au bout de soi-même. C'est ce à quoi je pense être arrivé ce soir.
Vous avez écouté le jeune David Douillet il y a 25 ans, David. On a entendu les commentaires de Thierry Rey sur Canal en pleurs. T'es un monstre, David. Les frissons quand on écoute ça.
T'es un dieu vivant.
C'était le 22 septembre 2000, David. Tu décrochais ton deuxième titre olympique chez les Loups en judo. 4 ans après Atlanta, en finale, tu bats le japonais Shinyora, celui qui est annoncé comme l'héritier. Et ben non, l'ami. David avait été porte-drapeau quelques jours auparavant. David, avant de t'écouter, moi, j'aimerais qu'on écoute Julien. Tiens, quand on a préparé cette séquence, il m'a dit, tu sais, moi, ce jour-là, c'était un jour assez marquant. Tu me racontes?
Ouais, moi, je m'en souviens parce que j'étais en tournoi futur. Donc, les futurs, c'est la troisième division du circuit à Mulhouse. Et heure française, ton combat devait être aux alentours entre midi et 13h, hein, quelque chose comme ça. J'imagine que c'était 21h là-bas, 20h ou 21h là-bas, en Australie. Et donc, on allait jouer. J'allais jouer un match. Et évidemment, dans le club aussi, il y avait la télé, il y avait ton combat. Et j'ai dit au juge arbitre, je vais sur le court, mais à la fin du combat. Parce que pour moi, c'était inconcevable de louper un moment du sport, un grand moment du sport français. Et le Gerbet a tout à fait compris. Et donc mon adversaire était étranger, lui comprenait pas. Et j'étais avec mon entraîneur de l'époque. On était tous les deux debout. J'attendais pour rentrer sur le terrain. Et on attendait la fin de ton combat. Et donc je m'en souviens vraiment très très bien. Et puis c'est des moments. Bah là on l'a réentendu. On le disait juste avant hors antenne. C'est aussi des moments de sport qui sont sublimés par des commentaires, par des moments de grâce de journalistes ou de consultants. Et les mots de Thierry Rey pour décrire ta performance, parce qu'à l'époque ça n'avait jamais été fait qu'un judoka garde son titre dans la catégorie poids lourd, son titre de champion olympique. Ben voilà, c'est tous ces souvenirs là, moi, qui sont assez précis, même 25 ans après.
Tu l'avais gagné ton match derrière.
Ouais.
T'es arrivé sur le terrain, je suis David Douillet.
Non, mais
t'es un dieu vivant.
Je suis un dieu vivant.
T'es porté par une énergie, ça c'est sûr.
Bon, David, 25 ans après, quand t'écoutes Julien, j'imagine que tu dois encore entendre des gens qui te parlent de leurs souvenirs de ça.
Bien sûr, et tous les jours, chaque jour, c'est quelque chose d'assez. C'est incroyable et sans fausse modestie, j'ai du mal à le comprendre parce que quand les gens me disent de manière très sympathique, très gentiment, on adore ce que vous avez fait, c'est génial, etc., etc., et que je leur donne la date, vous savez, c'était en 2000, il y a 25 ans, et là je vois la tête des gens, les yeux qui s'écarquillent, et à chaque fois, à 100%, les gens me disent, ah bon, tant que ça? Je dis oui, tant que ça. Je dis, ça se voit, hein, vous me voyez tel que je suis aujourd'hui. Je suis un peu plus poivre et sel qu'avant, enfin totalement même. Et puis un peu plus épais aussi. On va arrêter là. Et donc voilà, c'est étonnant parce que il y a une espèce de fraîcheur du souvenir. C'est ce que je constate. Alors évidemment, pas dans toutes les générations, parce que toutes celles et ceux qui sont nés dans les années 2000, tout ça diminue en décroissant. Et puis il y a un moment où les gamins d'une dizaine d'années, pour ceux qui font pas de judo, me connaissent pas du tout. Mais en tous les cas, leurs parents, tous ceux qui étaient ou alors adolescents à l'époque et ou qui sont nés juste après, ont cette ce souvenir-là. Et j'arrive pas encore forcément à comprendre pourquoi ça a autant marqué les gens. Parce que Brahim avait gagné aussi. Il y en a plein qui ont gagné. Brahim et Asloum. Il y en a d'autres qui ont gagné ces jeux, etc., etc. Et voilà, c'est assez inexplicable. Il y a un truc qui s'est passé. J'ai l'impression que ça a touché autre chose que le côté sport, etc.
Oui,
etc.
Tu sais pourquoi, David?
Ça a touché un peu l'affect.
Tu sais pourquoi? Comment. Parce que ce titre-là, c'est un peu Survivor. C'est-à-dire que tu as donné une leçon à tout le monde. Sûr, oui. Mais oui, mais parce que t'étais quasiment fini pour le judo. Ce titre, cette médaille arrive après un accident de moto que tu as eu. Et c'était le moyen de retrouver de la force. Et en tout cas, moi, j'ai plus les souvenirs de comment cette médaille est arrivée que la médaille elle-même.
Parce que c'est une histoire de résilience.
C'est
et
une
on
histoire,
se reconnaît tous
exactement,
là-dedans.
C'est une histoire de résilience terrible, enfin terrible, fantastique dans l'absolu. Et je pense que ça c'est presque aussi inspirant que le résultat lui-même. Et en tout cas, moi, je me souviens de tout ce que je lisais ou j'entendais quand tu racontais comment cette médaille était arrivée.
Ouais, mais si tu veux. Toi, quand t'es le concerné, t'as pas l'impression que les gens ont suivi tout ça, toi. T'as pas l'impression que les personnes se sont attachées à cette histoire qui est en fait quelque chose de négatif, un accident de moto, une espèce de résurrection du phénix, un type qui essaye de se reconstruire, etc. T'as pas ce fil-là. Et en réalité, il existe.
Bien sûr.
T'es obligé de l'admettre au bout du compte. Parce que, d'abord, les gens t'en parlent pas. Les gens tout au long de ce processus de reconstruction, les gens sont très pudiques et dignes et ils t'en parlent pas. Donc t'as l'impression qu'ils le savent pas ou qu'ils en tiennent pas compte. Mais en réalité, ils en ont tous tenu compte et souvent on dit aujourd'hui que quelquefois c'est l'histoire et ce qui amène l'histoire, c'est le storytelling qui est autour, qui fait que ça amène quelque chose d'exceptionnel
ou
d'atypique un supplément d'âme, exactement. Et ben c'est vrai parce que je suis obligé de le dire, les gens avaient ça dans la tête et ça les a marqués, ça les a touchés que ça se solde par par cette médaille d'or.
Parce que ta médaille est un peu notre médaille à tous, c'est pour ça qu'elle a touché. Ce sont ces médailles-là qui touchent le plus, je pense, le public. Bah tiens, bon, on revient à la réalité tout de suite. C'est le moment de vous inscrire pour tenter de remporter. Alors, pas de médaille d'or comme David Douillet. Non, c'est soit 1000 euros, soit la totale de la rentrée du coffre RMC. Un MacBook Air, une console Nintendo Switch 2, une montre connectée Garmin, un abonnement annuel à Ligue 1 Plus et un séjour Lagrange Vacances d'une valeur de 1000 euros. Ou même la super totale avec 10 000 euros en plus. Envoyez coffre au 732-16. Coffre au 732-16. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire. Ne faites pas comme Simon Dutin qui a envoyé coffre sur numéro WhatsApp. Simon. Notre numéro WhatsApp 0612 424 424. On se retrouve dans quelques instants. Bah tiens, on va ouvrir le vestiaire. David, bah, je pense qu'on va continuer finalement un petit peu cette discussion. La gestion de la victoire, l'après, comment on gère tout ça? On va en parler avec toi, avec Sarah Pitkowski, avec Julien Beneteau, avec Simon Dutin, parce que l'environnement médiatique aussi est important dans ces moments-là. Il y aura les GG sur le buzzer. On va parler Formule 1 et les jeux du sport. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.